franceinter.fr.
Comment lutter contre l'accumulation de chaleur dans les grandes villes américaines et européennes? Une étude originale, aujourd'hui à la une de la science, menée par des physiciens des matériaux. Elle explique enfin le phénomène des îlots de chaleur urbaine qui fait grimper parfois le thermomètre de plus de 6 degrés dans les grandes villes. Pour en parler, nous partons au MIT à Boston, Axel Villard.
Oui Mathieu, nous sommes au téléphone avec Roland Pélinck. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes physicien des matériaux, directeur du laboratoire de recherche mixte CNRS-MIT. Alors, ce qui est intéressant avec vos travaux, c'est que vous n'êtes pas du tout urbaniste ni même climatologue, mais physicien. Comment vous en êtes venu à vous intéresser à la chaleur dans les villes?
Écoutez, c'était en fait, on est parti d'une, on va dire, de promenade, dans la cour du MIT avec un collègue, Franz Ulm, et en fait, en regardant la skyline de Boston, de l'autre côté de la rivière, parce que nous sommes à Cambridge, on regardait Boston, et on s'était dit que les bâtiments posés comme ça dans la ville ressemblaient furieusement à une phase d'atomes absorbés sur une surface. Et d'où est venue l'idée d'utiliser les méthodes de physiciens pour quantifier la façon dont ces molécules bâtiments s'absorbent sur cette surface qu'on appelle ville.
Mmh. Donc voilà. Vous assimilez les bâtiments à des atomes et tout devient plus simple alors?
Ben oui, enfin, parce que du coup on peut mettre en œuvre des méthodes que l'on utilise par ailleurs pour quantifier la matière solide, la matière liquide. Nous, physiciens, on va faire des expériences de neutrons, on va mettre des neutrons sur la matière et la réponse nous donne des informations statistiques sur l'organisation des atomes. Alors pour les villes, c'est très simple, on n'a pas besoin de mettre des neutrons sur la ville, bien entendu, on regarde Google Maps et on peut rapatrier la position de tous les bâtiments d'une ville et faire des études statistiques sur l'ordre local ou le désordre local de la ville. Par exemple, Boston est une ville historique américaine qui a un signal évidemment européen, de liquide, donc si vous voulez, ou de vert. Mm-hmm. Donc évidemment, une ville comme Chicago, elle est bâtie sur un réseau carré et donc un signal plus cristallin.
Alors du coup, si on remonte à l'échelle des villes, ça veut dire quoi? Quelles sont les villes qui sont les plus intéressantes et donc les plus chaudes?
Alors en fait, ce qu'on a montré là, c'est que la chaleur dans les villes s'évacue moins bien en fait dans les villes dites ordonnées. Alors ordonnées comme Chicago, hein, les villes américaines bâties récemment, on va dire. Les villes plus anciennes, comme Boston, je disais, ou encore Londres, ou encore Paris, ce sont des villes où le flux d'air est plus homogène et où la chaleur s'évacue mieux, en fait. Et donc, du coup, l'effet de chaleur urbain est moins important dans les villes désordonnées que dans les villes ordonnées.
De combien de degrés ce phénomène d'îlot de chaleur peut faire grimper le thermomètre en été?
Alors, écoutez, autant je me rappelle, pour le record aux US, c'est Phoenix, ça doit être de l'ordre de 7 à 10 degrés, donc c'est beaucoup. Wow. D'accord. Typiquement, en moyenne, c'est plutôt de l'ordre de 3-4 degrés entre le cœur de la ville et l'extérieur. Quand je dis l'extérieur, c'est l'extérieur pas loin. Hein. C'est typiquement les températures mesurées, par exemple, à l'aéroport local.
Donc, grosse différence entre l'Amérique et la vieille Europe, Roland Pélinck, dans les exemples que vous avez pu étudier ou pas?
En fait, pour le coup, on n'a pas trop de données européennes. On a plutôt regardé une quarantaine de villes américaines pour des raisons d'accès aux données. Mmh. Il semblerait que les villes désordonnées gardent moins la chaleur. Et cet effet-là, ça dépend où vous êtes. Par exemple, les villes de Floride, par exemple, Miami, en fait, eux dépensent beaucoup d'argent pour la climatisation à cause de la texture urbaine, en fait, de la ville. Et donc, vous voyez, ça dépend où on est, en fait.
Comment votre travail et vos mesures vont aider les urbanistes à travailler? Ils vont pas pousser les bâtiments?
On va pas démonter Paris, non, rassurez-vous. Ça, c'est évidemment, on peut donner des indications au maire de Phoenix s'il veut agrandir sa ville en lui disant, vous devriez plutôt localement bâtir avec du désordre. Mmh. Ça gérera mieux la chaleur. Et côté existant, en fait, c'est la seule façon de faire. Là, on tombe dans la physique des matériaux. Par exemple, comprendre le transport de la chaleur dans le béton, dans les verres, dans les aciers, etc. pour en fait que les bâtiments fuient moins l'énergie, gardent mieux l'énergie. Mmh. Donc toutes les procédures de réhabilitation sont effectivement du coup le cœur du problème quand il s'agit de l'existant.
Mais est-ce que les urbanistes ou les architectes, Roland Pélinck, ont l'habitude de travailler avec les physiciens sur ces questions d'atomes? Vous parliez de texture tout à l'heure et donc d'organisation, oui, des atomes. Ça paraît quand même bien loin de l'architecture habituelle, non?
Ah, carrément, je pense que là, pour le coup, alors... c'est un domaine nouveau. On a fait trois ateliers, trois workshops un peu partout, ici à Boston, et puis à Paris, et puis à Washington. Donc il y a une communauté de gens de la physique, et en général la physique théorique, qui commence à regarder la ville comme un objet d'étude de physiciens. Alors aussi bien pour la texture des villes, alors ça c'est un peu notre travail, mais aussi pour le transport, pour aussi le côté social, les gens font des modèles pour expliquer les comportements sociologiques des gens dans les villes. Donc tout ça, en fait, c'est un peu neuf. Et c'est vraiment de la physique par analogie, c'est-à-dire qu'on applique des méthodes développées pour d'autres domaines, hein, les atomes par exemple, on applique ça aux villes par exemple, et donc ça permet d'avoir des informations statistiques plus pertinentes, parce que mieux mesurées par des méthodes de physiciens.
Est-ce qu'il y a des cas où cette construction rectiligne alignée est intéressante?
Oui, alors je vous disais, pour garder la chaleur, c'était au fin fond du nord du Canada, c'est pas intéressant pour garder la chaleur. Mais il est évident aussi que d'un point de vue de réseau, il est plus facile d'imaginer un réseau électrique, d'accord, carré et bien et facilement distribué, qu'un réseau désordonné. Donc de ce point de vue-là, évidemment que le réseau simple, je vais dire ordonné, est un avantage. Ceci dit, ça va au satellite aussi pour avoir des bâtiments qui soient autonomes en énergie.
Merci Roland Pellin, que vous êtes physicien des matériaux, directeur donc du laboratoire de physique mixte CNRS MIT, et vous nous parliez donc de chaleur des villes et de réchauffement climatique depuis la neige de Boston où vous êtes en ce moment.
Voilà, merci beaucoup.
Merci à vous et Axel, à demain.
À demain.
Et puis en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, notre goût croissant pour la crevette n'est pas une bonne nouvelle pour le changement climatique. Les climatologues rapportent dans Nature Climate Change que pour seulement 6% de tonnage, la pêche à la crevette et au homard représente 22% des émissions de CO2. La demande croissante de ces crustacés et les techniques de pêche lente seraient en cause, entraînant une importante consommation de diesel. L'étude précise qu'il reste heureusement la pêche à la sardine, aux harengs et aux anchois pour consommer du poisson tout en respectant l'environnement. Le nez de l'homme de Néandertal lui servait à lutter contre le froid. Une étude qui vient de paraître détaille son nez saillant et ses larges sinus. Cet appendice nasal lui aurait permis d'humidifier plus efficacement l'air sec et froid. Selon l'étude, l'évolution particulière de la morphologie faciale des Néandertaliens provient en partie de leur adaptation au froid. En hiver, ils consommaient en effet près de 4400 calories par jour contre 2500 chez Homo sapiens. Grâce à ses fosses nasales, il inhalait ainsi une grande quantité d'air pour s'oxygéner, brûler les graisses et produire l'énergie nécessaire pour survivre à la saison hivernale. Et puis toujours autour du froid, des bains chauds qui font chuter le stress chez les singes des neiges. Une équipe de primatologues de l'université de Kyoto s'est penchée sur la spathérapie de ces macaques japonais. Dès 1963, une femelle macaque avait été observée en train de prendre un bain chaud dans une piscine d'hôtel située à côté d'un parc à singes. La source chaude aurait pour effet de réduire le rythme cardiaque et le stress chez ce primate. Et ce sont les femelles dominantes qui en profitent le plus en raison des efforts qu'elles fournissent. Pour les primatologues japonais, ce comportement est une preuve indéniable et fascinante de survie et d'adaptation face au froid.